Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité sur Africa Radio. Aujourd'hui, mardi 14 janvier, dans le journal des auditeurs, nous attendons vos commentaires sur la présence Sahel. Sur la présence française dans le Sahel, à l'issue du sommet de Pau, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 200 soldats supplémentaires pour renforcer la force Barkhane. Le président français a aussi accusé des puissances étrangères d'instrumentaliser le sentiment anti-français. Alors, les présidents des pays du G5 Sahel ont, de leur côté, réaffirmé leur souhait de voir la présence française se poursuivre. Alors, que pensez-vous des conclusions de ce sommet ? Lèvent-elles les malentendus autour de la présence militaire française au Sahel ? Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00, c'est le numéro du standard. Vous pouvez également nous envoyer des messages, demander à ce que l'on vous rappelle sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est le 33 7 66 19 77 69. Pour répondre à vos questions, nous aurons un invité. Nous serons en ligne avec Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Mais avant cela, direction le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour JDA, bonjour Africa numéro 1. Je me nomme Monsieur Dao. En fait, c'était concernant la Côte d'Ivoire. Je remercie le gouvernement ivoirien. Concernant le projet qui a été mis en place, compteur à tous. Là, vous avez à payer une somme de 1000 francs. Ouais, vous vous inscrivez à une somme de, en finançant une somme de 1000 francs pour que vous ayez votre compteur d'électricité. C'est-à-dire équivalent de 1,55 euros. Vous avez votre compteur. Au lieu de 120 000 à 150 000 francs à l'époque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est concernant la CMU, la couverture maladie. Ça aussi, c'est-à-dire chaque tête, que tu sois ivoirien ou non ivoirien, chaque tête doit payer une somme de 1000 francs aussi, à équivalent de 1,55 €. Là, vous aurez votre carte au CMU pour que vous puissiez vous soigner. Franchement dit, ces deux nouvelles-là, ça m'a vraiment, ça me va droit au cœur. Donc, je remercie le gouvernement ivoirien et j'encourage aussi tous les pays africains. Donc, à prendre exemple. Parce que là, si ça va en Afrique, nos parents, nos frères, ils ne vont pas se mettre sur la mer pour venir à l'Occident, pour venir se faire tuer pour rien. Donc, c'était votre frère Dao Dao. Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Docteur d'Africa Radio. Bonjour l'Afrique. Ah, notre Afrique. C'est malheureux l'Afrique. Franchement, ce continent, je l'aime tellement. Mais dirigé par des dirigeants muets qui ne savent pas parler, qui disent que oui, c'est ce qu'ils ont appris. Oui, 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 et puis voilà. Et au profit de qui? De l'Occident, de la France en particulier. Donc hier, tous ces chefs d'État du Sahel sont venus ici pour venir dire oui à Emmanuel Macron. C'est vraiment c'est triste, franchement. Et après, quand les Salif Keita parlent, Kémi Séba parle et autres activistes panafricanistes, on dit que non, voilà, ils sont impolis, et ils s'adressent mal auprès des chefs d'État africains ou français. Non, c'est normal des fois de réagir comme ça parce que trop c'est trop. Imagine, ce qui s'est passé hier à Pau, c'est comme ce qui s'est passé pour le Front CFA. Le Front CFA, c'est les populations africaines qui n'en veulent plus. Toutes les populations africaines sont sur la zone front qui ne veulent plus de ça. Et vu que ça fait du bruit, Emmanuel Macron arrive en Côte d'Ivoire et comporte avec Alassane Ouattara, les deux défis pour l'avenir de toute une grande partie du continent. C'est malheureux. Et ils imposent ce qu'ils veulent.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, c'est Monsieur Touré. Ben, moi, j'aurais voulu intervenir par rapport aux soldats nigériens, les 89, qui sont tués jeudi dernier, sans parler des 71. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que les armées africaines, notamment ceux qui sont actuellement concernés par la guerre au Sahel, ils sont pas du tout qualifiés. On dirait que même des gilets, je me demande même s'ils sont bien équipés. Même des gilets pare-balles, apparemment, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas. Parce que moi, je ne comprends pas que des djihadistes qui sont choisis comme ça dans dans des zones de pauvres qu'on vient de former puissent faire autant de mal, autant de victimes face à une armée qui soi-disant, a été formée pour se faire une guerre. C'est, j'arrive pas à me l'expliquer. Je me demande ce qui se passe et qui sont, comment ils sont armés, par qui ils sont armés ces djihadistes. C'est une question que je me pose. Deuxièmement, par rapport à la conférence de je sais pas si c'était une conférence ou quoi, de Pau hier, apparemment, maintenant, c'est un commandement conjoint qui va être mis en place. Mais je me dis que ça aurait dû être mettre en place depuis le début.
Bonjour, chers auditeurs d'Africa Radio. J'appelle aujourd'hui à tous mes compatriotes maliens d'être bien conscients de ce qui se passe actuellement au Mali. Actuellement, le Mali a besoin d'une nouvelle génération. Mali a besoin d'un changement réel. Le changement de réel doit venir par nous, les Maliens, d'abord. Il faut que les Maliens soient conscients. Tous les Maliens, j'appelle tous les Maliens, Mali a besoin de changement. Quand on dit le changement, je dis que le changement réel. Oumar Marouko, ce n'est pas un changement. Kéblen Dramé n'est pas un changement. Soumaïla Cissé n'est pas un changement. Mali a besoin de nouvelles générations. Tous les anciens acteurs ou tous les acteurs de 91, ils ont tous messagé de France. Il faut que les gens comprennent ça. Oumar Marouko, il travaille avec Jean-Luc Mélenchon. Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, et ils travaillent avec les partis socialistes français. Donc Mali a besoin aujourd'hui des gens qui n'ont rien à voir avec la France. Vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Les changements, c'est les changements. Il faut les vrais changements. On a besoin de nouveaux têtes. Merci beaucoup.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Hein. Je signale tout de même au dernier auditeur qu'il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon était un membre éminent du Parti Socialiste. Aujourd'hui, dans le JDA, le sommet de Pau a-t-il levé tous les malentendus quant à la présence militaire française au Sahel? Alors que ce sommet devait clarifier la position des présidents africains sur le déploiement de Barkhane, la France, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie ont donc décidé de renforcer leur coopération militaire. Emmanuel Macron a même annoncé l'envoi de 200 soldats supplémentaires. Alors qu'en pensez-vous, ce sommet a-t-il répondu à la montée des mécontentements? Pour en parler, nous accueillons Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous Emmanuel, vous êtes président de l'IPSE, c'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alors une première question rapide avant de donner la parole aux auditeurs, et ils vont être nombreux à vouloir réagir. Peut-on dire qu'alors certains dans l'opinion espéraient un retrait de Barkhane? Au contraire, Emmanuel Macron et ses homologues africains ont annoncé plus de Barkhane, si j'ose dire.
Alors, ils ont prononcé peut-être mieux de Barkhane, si j'ose dire, de mon point de vue également. Je ne suis pas certain que 220 soldats, comme c'est annoncé par le président Emmanuel Macron, vont changer la donne. Il n'y a, et je mesure mon propos, que 4500 hommes pour une zone qui couvre 5 millions de kilomètres carrés. Par contre, ce qui a été décidé à Barkhane, c'est un resserrement, un recentrage et une reconcentration autour de la zone qui semble la plus meurtrière. Et les dernières attaques, que ce soit l'attaque du 10 décembre dernier contre les soldats nigériens à Inetes, qui a fait 71 morts, et celle qui a, il y a quelques heures, occasionné la mort de plus de 89, on évoque même le chiffre de 110 militaires nigériens à China Goder, montre bien qu'il y a une concentration, une nouvelle impulsion djihadiste ou narco-djihadiste ou terroriste. Et bien évidemment, le résultat est le même, peu importe la qualification qu'on leur donne. En tout cas, le résultat est le même. Ils s'attaquent aux symboles de l'État, ils s'attaquent aux casernes, ils s'attaquent aux gendarmeries, aux écoles. Et c'est sans doute ce qu'il faut retenir du sommet de Pau, qui commençait très mal. Le ton du président français était quelque peu comminatoire, appelant à ce que les 5 chefs d'État qu'il avait appelés à venir à Pau, symboliquement à Pau, ville dont 7 des 13 militaires français morts lors de l'accident d'hélicoptère du 25 novembre dernier étaient stationnés, avaient d'une certaine façon une tonalité très française, ou très France G5 Sahel, et non pas dans une logique plus inclusive. Je crois tout cas de ce que j'ai retenu de la conférence de presse, des discussions qui ont eu lieu, que c'est un sentiment mitigé que l'on peut retenir de cette réunion de Pau. Premièrement, comme vous l'évoquiez, l'opération Barkhane est maintenue. Certains auraient souhaité peut-être qu'on ait quelques mots ou quelques éléments de langage, comme on dit, qui confirmeraient que la France mesure à quel point l'enlisement que certains lui prédisent, que le peu de résultats, mais c'est à débattre évidemment, ou en tout cas que la réflexion sur un possible désengagement, alors là la question se pose par rapport à qui, soit posée. Il n'en a pas été question, vraisemblablement, dans ce que l'on peut retenir donc de la conférence de presse et du communiqué de presse final. Par contre, il y a des choses qui sont non dites dans cette réunion de Pau, et je crois que c'est ce sur quoi il conviendrait de s'appuyer.
Alors, on va peut-être y revenir, justement, Emmanuel, si vous souhaitez évoquer les ingérences, le sentiment anti-français instrumentalisé par les puissances étrangères, c'est ce dont vous vouliez parler ?
Un peu, parce qu'effectivement, il y en a été question, et à la question qui a été posée par un journaliste burkinabé, le président a répondu oui, évidemment, cela le préoccupait, et que oui, il savait, ou il avait une idée des pays qui pouvaient être moteurs, ou en tout cas être influenceurs de ce sentiment, en n'évoquant aucun des pays, mais en disant que c'était des pays qui avaient une pratique très mercenaire, donc orientant vers un pays qui, évidemment, avec ses sociétés militaires privées, est très actif, non seulement dans la région, mais plus précisément en Libye, au Soudan du Sud, en République centrafricaine. Non, je voudrais...
On a nommé, vous n'avez pas nommé le pays, du coup, Emmanuel Dupuis. La Russie, tout le monde y pensait, personne ne l'a nommé, mais à l'Élysée et au Quai d'Orsay, on ne s'en cache pas. C'était la Russie qui était visée.
Les auditeurs auront évidemment trouvé le pays en question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre pays qui a été mentionné en filigrane, sans réellement que l'on puisse trouver une solution à un vrai problème, ce sont les États-Unis, puisque se tenait en même temps, et d'une certaine façon c'est une sorte de pied de nez supplémentaire, c'est Emmanuel Macron, une réunion du comité militaire de l'OTAN qui se tenait à Bruxelles, alors que le président français appelait à une internationalisation du conflit, avec la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de
les Américains. Alors Emmanuel, je vais vous presser un petit peu parce qu'il reste beaucoup moins de 20 minutes et il y a beaucoup d'auditeurs à qui on va donner la parole.
Rapidement, les Américains ont annoncé officiellement qu'ils réfléchissaient et qu'ils envisageaient un retrait de leurs troupes dans la région.
Voilà, pour effectivement recentrer peut-être leurs troupes. On verra peut-être les conséquences effectivement de ce retrait, si retrait devait y avoir des Américains de cette région. Merci Emmanuel d'avoir ouvert cette émission. On va écouter les auditeurs. On commence avec Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à votre invité Emmanuel Dupuis, bonjour aux auditeurs aussi.
Bonjour Ibrahim, bienvenue.
Alors, moi, je voudrais dire que ça a été une réunion qui n'a pas servi grande-chose par rapport à l'assentiment que nous, les Africains, nous avons en ce moment par rapport à l'opération Barkhane. Pourquoi ? Parce que nous pensons que ça a été une fois de plus une réunion à sens unique où le maître a appelé ses élèves et il leur a distribué des consignes. Et même le ton, quand on a vu la conférence de presse, Emmanuel Macron est resté égal à lui-même, parce que le ton est une fois de plus un peu martial. Voilà. Et les autres présidents africains, notamment celui du Burkina Faso, on le voyait s'exprimer, mais très très courtois. Alors là, quand il dit que ce sont des puissances étrangères qui manipulent les Africains, moi j'ai compris une fois de plus que le renseignement qu'ils ont a vraiment une limite que nous ignorons jusqu'à présent. Ça n'a rien à voir avec une puissance étrangère, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-politique français. Alors, l'air opération Barkhane, là...
Pour être précis, Ibrahim, ce qu'a dit Macron, il n'a pas dit que les Africains étaient manipulés, il a dit que certaines puissances étrangères instrumentalisaient, c'est-à-dire que jouaient sur ce sentiment et l'amplifiaient, voilà.
Oui, mais bien avant que ces puissances-là arrivent, toutes les questions qui par exemple de France CFA, tout ça, ça n'a rien à voir avec Barkhane, mais c'est tous leurs faits et gestes montrent qu'ils ne veulent pas tout simplement l'autonomisation de continent africain, l'air précaré. Bon, ce que je voulais dire ici, c'est que les Africains, nous dit, le caractère nuisible de Barkhane, On n'a pas indexé ça, mais est-ce que Barkhane est efficace? Certes, ce n'est pas efficace. Nous voulons qu'il change. Nous avons le sentiment qu'ils veulent juste assurer les services minimums. Je vais vous donner un gros fait, un fait exemplaire qui nous a tous interpellés. Vous vous rappelez des deux otages là, qui ont été pris au Bénin au mois de mai 2019, traversé tout le Burkina Faso jusqu'au Mali. Mais Barkhane, avec l'aide des drones américains, une fois de plus, la collaboration, enfin, on va dire, ça a été très efficace. Ils ont libéré ces otages-là. Mais comment voulez-vous que, quand il s'agit de eux, leurs ressortissants, leurs otages, ils deviennent subitement très efficaces? Et là, depuis très longtemps, nous tournons en rond. Et les djihadistes sont en train de nous tuer. C'est ça le problème. On se demande s'ils sont vraiment, ils ont vraiment la volonté. Voilà. Ben, pour terminer, nous voyons aussi que même si nos présidents leur disaient partez, moi, si je pouvais être leur conseiller, j'allais leur dire dites-lui partez, ils vont pas partir. Vous savez pourquoi, Stéphanie? Ils vont pas partir? Parce que vous savez, en Mauritanie, depuis 2006, il y a des pipelines de Total, du pétrole, l'exploitation du pétrole qui est installée là-bas. Il y a des Français qui sont là-bas. Il y a des Canadiens qui sont là-bas. Et au Niger.
Il y a la paix en Mauritanie, Ibrahim.
Mais oui, mais quand même, un soldat, un otage français vaut 1000 Africains en otage. C'est ça. Ils vont pas quitter parce qu'ils quittent les touristes vont aller prendre en otage les travailleurs des Areva et des travailleurs de Total.
C'est déjà arrivé, Ibrahim, si vous vous souvenez bien. Il y a eu plutôt plusieurs employés d'Areva qui ont été kidnappés. D'ailleurs, qui ont été libérés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'aide d'un Nigérien qui était plutôt proche aussi de la présidence nigérienne. Merci beaucoup, Ibrahim. On a bien compris votre point de vue. Pour vous, voilà, la France ne répond pas aux sentiments anti-français des opinions africaines. Alors, Ibrahim dit, nous, les Africains, on ne veut pas de Barkhane. En tout cas, on trouve que Barkhane est inutile. Alors, tous les Africains, non, peut-être pas. Bramé, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Farman.
Bonjour, Bramé. Vous avez entendu Ibrahim qui dit, voilà, les Africains sont contre Barkhane. Vous vous dites, non, vous êtes plutôt d'accord. Vous dites, on a besoin de Barkhane.
Moi, personnellement, je ne suis pas... quand je dis que je suis contre le départ de Barkhane, il y a des gens qui vont penser que je suis un partisan de Ibeka. Je suis pas, j'ai jamais été militaire pour Ibeka un séjour. Mais ce que je dis, il faut que la France reste aux côtés de nous, les Maliens. Car nous, le Mali, on n'a plus d'armée. Ça fait 20 ans que Mali a été désarmé par tous ceux qui ont succédé au général Moussa Traoré. Ils étaient les messagers des Français. Ce qui est en train de passer au Mali actuellement, ça a été planifié depuis 1989. Vous voyez, depuis 1989, ça a été planifié. C'est eux qui ont soutenu Yad Agali contre le général Moussa Traoré. Si vous vous souvenez.
Alors, je ne connais pas cette histoire. Je connais l'histoire de la révolution malienne en 91, mais je sais qu'Yad Agali était un personnage influent.
Il était chef des rebelles en 89. C'est Tcheblen Dramé qui est affaire étranger aujourd'hui. Omar Marco, c'est lui qui dit qu'il bat la France. Alpha Omar Konaré, ancien président de la République, c'est eux qui ont dit que les rebelles maliens, ils ont raison contre le général Moussa Traoré. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on est en train de payer les prix forts. Vous voyez ce qui se passe? Donc, dans la politique, il faut pas regarder ce qui se passe. Il faut regarder en dessous. Donc, on sait très bien que c'est la France qui a fait partie, France de François Mitterrand. C'est lui qui a soutenu les opposants contre Moussa Traoré. Donc, ils n'ont rien mis en place. Après l'arrivée des les faux démocrates, ils ont désarmé le Mali.
Vous dites que la crise malienne vient de loin, c'est marrant, parce que parfois, on a pu entendre au Quai d'Orsay que finalement la crise malienne ne venait pas forcément que de l'intervention de la France en Libye, mais voilà, avait des ferments peut-être plus profonds,
Depuis 1989, donc les opposants, c'est eux qui ont dit que les rebelles, ils ont raison. Mais aujourd'hui, on est en train de payer les pays les plus forts. Mali était le pays le plus armé en Afrique de l'Ouest, mais maintenant on n'a rien parce que tout a été détruit par les faux démocrates qui ont succédé au général Moussa Traoré.
Bon, merci, Bramé.
Si la France est partie, donc Mali, tout le Mali sera à la main des djihadistes.
Vous dites que l'armée malienne est incapable de tenir le pays, si j'ai bien compris. Mon cher Bramé, je vous remercie. Je pense que le message est passé. On écoute Camara, Emmanuel, et ensuite je voudrais peut-être une réaction globale, hein, effectivement, sur les opinions peut-être africaines variées et la réponse, hein, de la France. Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de ce sommet, l'envoi de la poursuite de Barkhane et l'envoi de soldats, c'est ça?
Alors, je suis pas du tout d'accord, parce que j'estime que l'Afrique est toujours mise à l'écart. Parce que j'estime que déjà la population ne veut plus de l'armée française. Ne veut plus de l'armée française
Pardon, excusez-moi, il y a des lapsus révélateurs, c'est pour ça.
Voilà, moi ce que je veux dire, la population ne veut plus de l'armée française, parce que ils sont superflus. Rien, il n'y a rien de clair. Et puis je pense que
Quand vous dites la population, Camara, vous avez vu, après, les points de vue sont variés quand même.
Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais la majorité ne veut plus l'armée française en Afrique. Moi, je prends, par exemple, le cas du Mali. Ils ont décidé, mais est-ce qu'ils ont demandé à la population? Ils auraient dû faire. L'Assemblée nationale n'a même pas décidé.
Ah, est-ce que ce n'est pas finalement au président Ibeka de demander plutôt à son peuple et à l'Assemblée nationale de vous?
Est-ce que le président Ibeka les mains libres aussi? Est-ce qu'il n'est pas mis sous pression par la France?
Quels seraient les moyens de pression de la France selon vous?
J'ai pas compris.
Quels seraient les moyens de pression contre Ibeka selon vous?
On le sait, madame.
Bah, dites-moi, quels sont les moyens de pression que la France a contre Ibeka?
Déjà, l'armée malienne n'a pas le droit d'aller à Kidal, déjà. Et moi, je pense que si la population ne veut plus de la France, l'armée française, c'est quelque chose. On sait que. Moi, je n'ai pas vous donner des détails, mais je sais que
mais des analyses, c'est bien, Camara, vous voyez. Juste pour essayer d'avoir un débat un peu construit. Je t'inquiète, mais on a bien compris, hein, Camara qui dit voilà, la France n'a plus sa place, les bases militaires françaises n'ont plus leur place, hein, sur le continent africain. Et voilà, les populations ne sont jamais consultées. Emmanuel Dupuis, est-ce que c'est ça aussi le problème aussi dans le Sahel? C'est finalement le manque de consultation des populations alors que les pays sont engagés dans une guerre?
Bah écoutez, j'ai plusieurs commentaires à faire, hein, par rapport à ce que j'ai entendu. Alors, premièrement, je ne suis pas certain, parce que je ne sais pas la quantification de ceux qui sont pour ou contre la présence française. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement des manifestations qui régulièrement, que ce soit à Kidal, à Bamako ou à Ouagadougou, posent la question non seulement de la présence des troupes françaises, mais la présence des troupes étrangères. Mmh. Je rappelle qu'il y a 15 000 militaires et civils de la MINUSMA.
Africains pour la plupart, voilà.
Non, pas africains depuis la plupart. Il y a 57 pays, hein, dans la MINUSMA. Il y a beaucoup d'Africains, mais il y a aussi des Égyptiens, il y a 1000 Allemands, il y a des Népalais, il y a des Suédois, il y a vraiment beaucoup, c'est très divers. Et il y a effectivement, et c'est absolument nécessaire, des Africains qui contribuent à la sécurité de leur territoire et de leur voisinage. Maintenant, la question que vous posez, elle mérite une deuxième question. Si les troupes françaises ou les troupes occidentales devaient quitter le territoire, par qui seraient-elles remplacées? Alors ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée pour avoir ce débat construit que vous appelez vos voeux, Stéphanie. Moi, je suis très heureux que en juillet 2014, on ait avancé sur la mise en place de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, la CARIC.
La CARIC,
pourquoi n'a-t-elle pas été mise en place au moment où il y a eu cette déferlante de violence? Évidemment, on est en 2014, donc l'intervention française l'a anticipée en 2013, en janvier 2013, mais néanmoins, il a fallu attendre très tardivement, en l'occurrence le sommet de septembre dernier, du 14 septembre dernier, de la CEDEAO, pour qu'il y ait un appel à ce qu'il y ait une mobilisation régionale, et pas seulement les 5 pays du G5 Sahel. Sur les 5 pays du G5 Sahel, seulement 3 appartiennent à la CEDEAO. La Mauritanie, comme vous le savez, l'a quittée en 2000, et le Tchad n'en fait pas partie. Donc il y avait effectivement cette question qu'il faut avoir à l'esprit. Si les Français partent, et j'entends bien qu'il y ait ce sentiment, et que je m'honorerais de porter ce débat, et ce débat doit être mis en place, mais par qui serait-il remplacé?
Justement, alors j'allais vous poser la question, et la Russie qui s'est rapprochée, hein, du Mali, je crois qu'un accord a été signé, hein, même.
Oui, mais ça ne veut pas dire...
Mais la Russie a-t-elle les moyens, Emmanuel Dupuis?
Non, la Russie a les moyens, mais la Russie n'a aucune volonté. En tout cas, je ne fais que paraphraser ce qu'a dit Vladimir Poutine à l'occasion du sommet de Sotchi du 24 novembre dernier, en disant que la Russie était un partenaire dans la lutte contre le terrorisme, car c'est une menace globale, qu'il répondrait présent si on lui demandait d'intervenir, mais que bien évidemment, il ne le ferait pas seul, il le ferait en concertation avec les capacités militaires présentes sur le territoire. Alors, il se peut que la Russie soit appelée ou propose une participation plus forte, par exemple, à travers la mise en place de la force européenne, donc la Task Force Takuba, qui a été renforcée ou qui a été réaffirmée comme nécessaire au réengagement de nos forces dans la région. Donc il se peut que la Russie puisse dire, comme la Chine du reste, la Chine l'a évoqué récemment, qu'elle pouvait aussi contribuer plus, de manière plus opérationnelle si on le lui demandait. Alors ça, c'est la première réflexion que je voulais avoir. La deuxième réflexion par rapport à votre auditeur, c'est qu'effectivement, il a raison de dire que la question de Kidal est centrale, et c'est précisément pour cette raison que la France a décidé de quitter Kidal. Ça a été annoncé à l'occasion de la conférence de presse du sommet de Pau.
Et il semblerait même que Ibeka ait pris l'engagement qu'il y aurait bientôt le redéploiement de l'armée malienne, de l'armée réunifiée dans la région de Kidal.
Il lui a répondu
d'ici le mois de février.
Il lui a répondu en anticipant, en disant qu'une partie des milices Touareg, celles qui sont les héritières du mouvement national de libération de l'Azawad, notamment le mouvement pour le salut de l'Azawad, qui participe avec la plateforme et le GAPIA, le groupe armé Touareg, Imgad et Amazir.
Pro-gouvernemental.
Et donc pro-gouvernemental, sous l'égide du général Gamou, qui du reste est devenu inspecteur général des forces armées maliennes, il est effectivement, est en cours, une intégration, il y en a déjà 500, des milices Touareg dans les forces armées maliennes. Donc oui, il a raison de l'évoquer, et votre auditeur a aussi raison d'évoquer le fait que le simple fait que Kidal puisse apparaître comme extérieur au territoire souverain du Mali est parfaitement scandaleuse. Elle est d'autant plus scandaleuse que c'était un des éléments intégré comme un moyen de stabiliser et donc de pacifier le Mali suite aux accords d'Alger de mai 2015. Dernier point, l'autre auditeur a raison de dire que la question malienne n'est pas, comme on l'entend trop souvent, uniquement liée au délitement et à la désintégration de l'État libyen. Les ferments d'une mauvaise gouvernance ou les ferments d'une insuffisante prise en compte de la périphérie malienne, du septentrion malien, remontent bien avant ATT, comme ça a été évoqué. Je le ferai remonter aux premières rébellions Touareg, 1963, qui, de manière régulière, interroge la capacité de l'État malien à se penser de manière souveraine sur un territoire de 1 million de kilomètres carrés.
Merci beaucoup Emmanuel pour ces éclairages. Il nous reste quelques petites minutes. On va juste reprendre un ou deux auditeurs. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Monsieur Claudel. Vous n'êtes pas surpris? Vous dites la France continue de faire son jeu de pression sur les chefs d'État africains qui sont venus de leur plein gré quand même à Pau, rappelons-le. Ils auraient pu décliner.
Je pense que, vous voyez, ils n'avaient pas de moyens pour incliner l'invitation. C'était un leurre de dire qu'ils étaient en capacité de dire non à l'invitation. Moi, la question que je me pose, c'est que quand je dis la France continue son jeu, voilà un pays qui a colonisé des pays. Et 60 ans après, qui a tissé des liens de coopération militaire avec ces pays ex-colonisés. Mais comment on peut comprendre que ces armées nationales n'ont pas de moyens pour pouvoir contrer des terroristes? La question fondamentale, elle est à ce niveau-là.
Vous dites finalement la coopération militaire depuis 60 ans est un échec. Est-ce qu'on n'a pas aussi, Claudel, au lendemain des indépendances aussi, voilà, est-ce que certains pays n'ont pas aussi finalement, je crois que c'est le cas d'ailleurs aussi de la Côte d'Ivoire, hein, misé sur une défense extériorisée, c'est-à-dire qu'on faisait appel à l'armée française en cas de problème?
Exactement, vous avez raison, et c'est en cela que je tiens. Il est là le vrai problème, c'est-à-dire que nos pays ont lié leur défense à la France, à la même France. Vous voyez? Donc, et la France, bon, se dit, oui, je suis en territoire conquis, donc c'est vous qui me demandez d'intervenir, j'interviens, mais c'est pour résoudre ce problème. Parce que quand la France lance, quand le président Emmanuel Macron dit, je vais partir, il sait très bien que les pays africains n'ont pas de moyens. Il faut que toutes ces réunions-là servent à réellement équiper les armées nationales, afin qu'elles puissent se prendre en compte, en charge. Mmh. C'est à ce niveau-là qu'on peut régler le problème.
C'est vrai qu'on pourrait faire le point aussi sur la formation, hein, puisque depuis, je crois, au moins depuis 2014, hein, l'armée malienne est rentrée dans un programme de formation qui peine, hein, encore, on le voit aujourd'hui, hein, à faire ses preuves. Claudel, je vous remercie, j'en ai juste le temps d'écouter Christophe. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, pardon, Christophe. Alors, dites, oui. Vous avez entendu les uns les autres, Christophe, vous serez le dernier auditeur, vous avez entendu les uns les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, par exemple, avec ce que disait Claudel sur les armées africaines?
Oui, surtout, je suis d'accord avec Camara, ce qu'il avait dit, mais j'ai une pensée à tous les Maliens, soldats tombés, à tous les Burkinabés, à tous les tout le Sahel, vraiment.
Nigériens, qu'on fait encore de lourdes pertes récemment.
Tous les soldats, vraiment, j'ai une pensée pour eux, j'ai une pensée pour l'Afrique. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes. Vraiment, sincèrement, au fond de mon cœur, j'ai une pensée pour ces hommes qui sont battus pour leur terre, pour leur continent. Mais ce que je voulais dire juste. Vous savez, après 60 ans, je suis vraiment avec Monsieur Camara qui l'avait dit. C'est pas normal. De toute façon, les présidents africains, ils étaient obligés de venir dans Capo. Et moi, je trouve c'est pas normal que les présidents qui disent que ouais ben oui, l'accord c'est encore. On a voté pour que on nous rajoute encore 200.
Ils n'ont pas beaucoup voté, mais on a bien compris. Alors, je suis désolé, Christophe, il reste 40 secondes, on arrive à la fin de l'émission, mais je pense qu'on a, vous avez à peu près dit l'essentiel, ce que vous pensiez. Je vous en remercie. Il y a M. Sékou qui disait, je pense que la France doit changer de politique par rapport au Mali, être plus à l'écoute des populations et aller dans l'intérêt des populations. Emmanuel Dupuis, je vous remercie grandement de votre participation.
Merci à vous, merci aux éditeurs pour leurs questions pertinentes.
Merci, Emmanuel. Manuel, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, bien sûr, sur les antennes d'Africa Radio. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. N'hésitez pas à laisser vos messages sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. À demain.